Épilogue. Note d'avril 1992 à l'intention de Dan Simmons. Je reste un lecteur suffisamment assidu pour savoir que les épilogues sont passés de mode dans les romans à peu près en même temps que les guêtres dans l'habillement. Mais je souhaitais tout de même mentionner quelques faits sans rapport direct avec mon histoire de 1925, si bien que j'utilise ce maladroit épilogue pour vous les faire connaître. Je compte sur vous, au cas où vous seriez arrivé jusqu'ici dans votre lecture de mon interminable tas de carnets, pour le retirer si jamais vous décidez de partager mon récit avec d'autres lecteurs et trouver cet épilogue mièvre ou inintéressant, ou les deux. Après mon retour en Amérique, à l'automne 1925, il m'a fallu quelques années avant de songer à reprendre l'alpinisme. Quand enfin j'ai recommencé à grimper, je me suis limité aux montagnes rocheuses dans le Colorado. J'ai bossé pendant 2 ans dans la région de Colorado Springs, où les plus hauts sommets culminent à environ 4200 mètres, puis dans les Grand Tetons, sans doute la plus belle chaîne de montagnes en Amérique. C'est là, à Jackson Hole, que j'ai rencontré Charlie et sa femme, bien avant que la station devienne le lieu de rendez-vous des gens riches et célèbres. Nous partagions tous les trois une même passion pour le ski. Quand j'ai repris l'alpinisme en dehors des États-Unis, à la fin des années 1920, je suis d'abord allé dans les Andes, en Amérique du Sud, où se trouvaient de nombreux pics encore invaincus. Pour me rendre dans les pays où je souhaitais grimper, je me faisais embaucher comme matelot sur un cargo ou un yacht de luxe. Et c'est cette expérience qui m'a aidé à décrocher le boulot dont je vous ai parlé lors de notre rencontre, mes 2 ans dans l'Antarctique avec l'amiral Byrd au milieu des années 1930. En 1929, 4 ans environ après mes derniers jours dans l'Everest avec mes camarades disparus, j'ai reçu une carte postale du Népal. Je dois d'abord préciser qu'à partir de 1928, il est devenu de plus en plus difficile d'obtenir l'autorisation d'entrer au Tibet et de tenter de gravir l'Everest. La première expédition anglaise, après celle de Mallory et d'Irvine en 1924, a été conduite par Hugh Rutledge en 1933. Les alpinistes sont montés suffisamment haut pour retrouver le piolet de Sandy Irvine là où je l'avais déposé sur un bloc rocheux, sous le premier ressaut. Mais contrairement à ce que j'avais espéré, ils n'ont pas compris qu'il pointait dans la direction du corps d'Irvine un peu plus bas. À moins qu'entre-temps, la longue pente de cailloux sur laquelle nous avions laissé le cadavre, mains jointes serrées entre ses genoux gelés, n'ait glissé beaucoup plus bas, voire dans le précipice. Quoi qu'il en soit, en 1933, la 4e expédition britannique, sous la direction de Hugh Rutledge, n'a même pas atteint l'altitude à laquelle était parvenu Teddy Norton en 1924. Pas plus que l'expédition d'Eric Shipton en 1935, qui a suivi la même voie que Rutledge, même si elle a découvert et photographié de nouvelles empreintes de Yeti. Nombre de ces mêmes alpinistes, parmi lesquels Eric Shipton et Bill Tillman, sont retournés à l'Everest en 1936 et 1938. La tentative de 1936 se voulant dans le fameux style alpin que le diacre avait planifié pour nous en 1925. Mais le mauvais temps a empêché Shipton, Tillman et leurs hommes de monter très haut. Le Dalai Lama n'a pas officiellement fermé les frontières du Tibet avant 1947, quand un horoscope l'a informé que son pays serait menacé par les étrangers. Jusqu'en 1950, il a transformé le Tibet en un royaume interdit, comme le Népal l'avait été pour nous dans les années 1920. Ce qui n'a pas empêché les Chinois de planifier leur agression, qui s'est soldée par le meurtre de 5 millions de Tibétains, la destruction de plus de 30 000 monastères et lieux saints bouddhiques, dont le monastère du Rongbuk, et la traque des prêtres et des religieuses, du moins ceux qui n'avaient pas fui en Inde, par l'armée chinoise. Cependant, au moment où le Tibet se fermait, le Népal s'ouvrait aux alpinistes étrangers. En octobre 1929, la semaine suivant l'effondrement de la bourse, j'ai reçu une carte postale du Népal. Elle portait d'exotiques timbres népalais, pratiquement jamais vus par des Britanniques et des Américains, mais recouverts de cachets indiens et anglais, puisqu'elle m'avait été réexpédiée par des fonctionnaires à New Delhi, puis par la Royal Geographical Society à Londres. Au dos figurait un bref message manuscrit. Jake. Nous espérons que vous allez bien. Ici, dans la vallée de Kumbu, la ferme est très prospère et nous sommes tous les deux très heureux. Nos petits Charles et Ruth Ann vous embrassent. Vos amis pour toujours. » Il n'y avait pas de signature. Une ferme dans la vallée du Kumbu? Le seul occidental de ma connaissance qui vivait dans une ferme au Népal était Kate Owings, mais il avait à peine remarqué mon existence lors de sa visite dans notre camp au Sikkim en 1925. Qui d'autre, alors, que le diacre et Reggie? Si les petits Charles et Ruth Ann étaient les enfants qu'ils avaient eus après avoir disparu dans la montagne à la fin du mois de mai 1925, je comprenais le choix du prénom Charles. C'était celui du cousin de Reggie, le frère aîné de Percy et ami d'enfance du diacre, si cruellement blessé durant la Grande Guerre. Quant à Ruth Ann, il m'avait fallu fouiller dans des archives à Londres, bien des années plus tard, pour découvrir que Richard Davis Deacon avait eu une jeune sœur, Ruth Ann, morte un mois après sa naissance, en 1899. J'ai donc voulu croire que Reggie et le diacre s'étaient mariés, ou du moins étaient restés ensemble, et avaient choisi de vivre au Népal, loin du monde, pendant les années 1920 et 1930. Mais le diacre aurait-il vraiment pu rester à l'écart de la deuxième guerre contre l'Allemagne? Peut-être estimait-il qu'il avait déjà assez donné à sa patrie. J'ai occupé plusieurs vrais boulots, mais ma passion pour l'alpinisme m'a conduit à participer à plusieurs expéditions en Alaska, avec un autre ancien de Harvard, Brad Washburn. Au mont Crillon en 1933, puis au mont Foraker en 1934. C'est au cours de la troisième, à la fin des années 1940, que j'ai passé 9 jours coincés avec 4 camarades dans une petite grotte de glace à 5450 mètres d'altitude. 2 de mes compagnons sont morts d'hypothermie. J'ai eu la chance de ne perdre que 2 doigts à la main gauche pour cause de gelée. Je suis retourné pour la première fois, et avec une certaine appréhension, dans l'Himalaya, après mon aventure en Antarctique avec Bird, pour effectuer une reconnaissance du Nanda Devi, une magnifique montagne entourée de ce qui est devenu un parc naturel, protégé par des falaises presque infranchissables, une expérience extraordinaire que j'ai partagée avec mon ami Charlie, Bill Tillman, Ad Carter et d'autres en 1936. En 1938, j'ai aussi tenté le K2, culminant à 8610 mètres, le deuxième plus haut sommet du monde et d'après moi, bien plus dangereux que l'Everest, avec d'anciens membres du club d'alpinisme de Harvard. J'ai déjà dit, je crois, que le club n'existait pas encore quand j'étais étudiant là-bas. Personne n'a atteint le sommet cette année-là. J'ai aussi mentionné mon travail pour l'OSS durant la Seconde Guerre mondiale, et je ne vous ennuierai pas davantage avec ça, sauf pour préciser que j'ai utilisé quelques canaux secrets pour chercher des renseignements sur Reggie et Richard Davis Deacon, et même sur Lord Percival Bromley, Kurt Meyer et Bruno Siegel. Sans résultat. En 1953, à l'âge avancé et décrépit de 51 ans, j'ai accompagné mon ami Charlie dans une dernière aventure himalayenne, en tant qu'alpiniste de soutien, dans une deuxième tentative de conquête du K2. Personne n'a atteint le sommet cette année-là non plus. Le K2 est une maîtresse encore plus tyrannique que l'Everest, qui garde jalousement ses secrets. Mais j'ai eu l'occasion unique de voir un homme, Peter Schoening, assurer 4 de ses camarades de cordée, dont mon ami Charlie, qui avait glissé et chuté sur une pente d'une raideur mortelle, leur sauvant ainsi la vie. À ma connaissance, une telle prouesse était et reste inédite. Hélas, l'un des hommes qui nous accompagnait, Art Gilkey, s'est blessé à la descente. Alors que nous tentions de l'évacuer de la montagne, nous l'avions solidement attaché, enveloppé dans son sac de couchage, sur une pente raide, le temps pour nous de traverser un passage dangereux en taillant des marches. Mais une avalanche silencieuse, où Gilkey lui-même ayant défait les attaches qui le maintenaient, avait provoqué sa chute mortelle. Ce genre de chute n'est pas propre, je l'ai déjà dit. Elle laisse presque toujours une traînée de sang, de chairs arrachées, de vêtements déchirés, membres sectionnés, de matière cérébrale et autres. Charlie ne s'est jamais réellement remis de ses heures passées à redescendre de la montagne à côté du sillage de sang et des restes de son ami proche. Des années plus tard, il avait encore des accès de dépression et était la proie d'hallucinations, voyant l'autoroute se remplir de sang devant sa voiture. Certainement la conséquence de ce que les médecins qualifient aujourd'hui, en 1992, de troubles de stress post-traumatique. Après cette seconde aventure dans le K2 et la mort d'Art Gilkey, j'en ai eu fini pour de bon avec l'Himalaya. Mais j'oubliais l'événement le plus important de ces décennies. Vous parlez d'un épilogue. En 1948, en mission à Berlin pour l'OSS, où j'interrogeais d'anciens dignitaires nazis, je suis tombé sur un article de presse allemand, j'avais appris la langue pendant la guerre, qui m'a laissé songeur devant ma bière. Quatre brillants alpinistes allemands tentaient une ascension hivernale de l'Eiger en suivant la voie ouverte par Heinrich Hart sur l'Eigerwand, l'Ogresk et la face nord, lorsqu'ils étaient tombés sur le corps gelé d'un alpiniste au sommet de ce qu'on surnomme l'araignée, au-dessus du réseau blanc de dangereux champs de neige verticaux et juste sous les goulottes de sortie menant à l'ultime arête de cette montagne tueuse de 3960 mètres. L'alpiniste, la cinquantaine passée, un âge trop avancé pour tenter l'Eigerwand, avait manifestement été arrêté dans la dernière longueur de l'ascension par une terrible tempête qui avait balayé la face nord. Coincé dans son bivouac solitaire sur une vire de 15 cm de large, l'homme, qui ne pouvait plus ni monter ni descendre à cause du mauvais temps, était mort de froid. Il n'avait pas de papier, pas de portefeuille, et rien qui permette de l'identifier. Et personne, dans le village voisin ou à l'hôtel Kleinscheidegg, dans la vallée, au pied de la face nord de l'Eiger, ne se rappelait son passage. Les alpinistes allemands avaient raconté qu'il y avait un petit sourire sur le visage gelé du quinquagénaire. Richard Davis Deacon aurait eu 59 ans au cours de l'hiver 1948. Un âge invraisemblable pour s'attaquer à toute montagne un peu sérieuse, a fortiori en solo et en particulier l'Eigerwand. Bien que le cadavre n'ait jamais été identifié et jamais revu, une avalanche l'ayant emporté avant qu'une autre équipe de grimpeurs monte à cette altitude à la fin de l'été cette même année, et que les Allemands n'aient pas eu d'appareil photo avec eux, je vois distinctement le visage du diacre. Et j'imagine même ses pensées au moment où la tempête a stoppé son ascension si près du sommet et où il a commencé à ressentir les effets de l'hypothermie. Il n'en aurait pas voulu à la montagne. Son destin était de mourir sur la face nord de l'Eiger, il l'avait toujours dit. Le diacre, si c'était bien lui, je n'en avais pour preuve que mon intime conviction, s'était-il lancé dans cette tentative solitaire après la mort de Reggie? Ou attendait-elle son retour au Népal ou même en Inde? Je n'en savais rien. J'imaginais mal Reggie le laissant tenter l'Eigerwand en plein hiver, seul, si peu de temps après la fin de la guerre. D'un autre côté, rien n'arrêtait le diacre quand il avait une idée en tête. Les Allemands avaient témoigné que l'homme avait les cheveux gris, mais que son corps congelé paraissait en grande forme athlétique, celui d'un alpiniste chevronné. Pour finir, je suis resté en contact avec le docteur Passang pendant des dizaines d'années après notre aventure de 1925. Et je suis allé le voir en Inde deux fois, en 1931, puis durant l'été 1948. Ce deuxième voyage avait avant tout pour but de lui montrer l'article de journal à propos de l'alpiniste solitaire mort sur l'Eigerwand cet hiver-là. Devenu l'un des hommes les plus riches de l'Inde, les Maharaja mis à part, Passang faisait bon usage de sa fortune. À la mort de Lady Bromley en 1935, la pleine propriété des plantations de thé Bromley leur était revenue à sa famille et lui. Il avait 7 enfants qui ont tous réussi dans la vie. 2 de ses fils et 1 de ses filles ont été élus au Parlement indien. Passang a largement fait profiter le peuple indien de sa fortune, finançant des hôpitaux, des dispensaires, des cliniques, et octroyant des bourses et des prêts à de jeunes étudiants désireux de devenir médecins. L'hôpital et centre de recherche Lady Bromley-Montfort, spécialisé dans la recherche de nouveaux traitements pour les blessures de guerre, telles celles causées par les mines antipersonnelles dont ont été victimes tant d'enfants du tiers-monde, a acquis une grande renommée. Pasang est mort en 1973. Son nom et sa mémoire sont encore très respectés, non seulement à Darjeeling, mais dans toute l'Inde. Notre correspondance, au fil des décennies, a été intermittente mais riche en souvenirs et en émotions. J'ai laissé des instructions pour que nos lettres vous soient envoyées, Dan, avec ses carnets et l'appareil photo Kodak Vest Pocket. Ah oui, l'appareil photo. L'appareil de George Mallory. J'ai rapporté deux choses importantes de mon voyage de 1925 dans l'Everest. Le revolver Webley du Diacre, dont je me suis servi dans les îles grecques et ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale, et le petit Kodak Vest Pocket de Mallory que nous avions retrouvé sur le corps de Sandy à Irvine au-dessus de 8220 mètres ce jour de mai. Je n'ai jamais fait développer la pellicule. Je ne l'ai même jamais sorti de l'appareil. Il y a quelques années, en 1975 je crois, j'ai cependant parlé à un chercheur de la compagnie Kodak avec qui j'avais fait de l'alpinisme dans les environs d'Aspen au Colorado, et je lui ai demandé s'il serait possible de développer une pellicule de ce type d'appareil restée dans l'Himalaya, à haute altitude, ai-je seulement précisé, et s'il pouvait encore y avoir des images dessus. « Très certainement, » m'a répondu l'expert, « surtout s'il a passé beaucoup de temps dans l'air froid et sec de l'Himalaya. » Puis, il m'a adressé un clin d'œil et il a ajouté « Je parie que vous parlez du Kodak Vest Pocket qu'a fait George Mallory lors de sa disparition et qui n'a jamais été retrouvé, n'est-ce pas ?»« Je sais, même si vous ne le dites pas, que vous êtes allé dans l'Himalaya. Oh, K2, c'est bien ça ?»« Vous vous demandez si, dans le cas où l'appareil serait retrouvé, on pourrait récupérer des images de Mallory et d'Irvine au sommet ?»« Allez, Jake, crachez le morceau. Vous pensiez à cet appareil, n'est-ce pas ?» J'ai avoué d'un ton penaud que c'était le cas. J'ai seulement omis d'ajouter que l'appareil en question se trouvait dans mon petit appartement à Aspen, à 2 kilomètres de là où nous nous trouvions. Je vous lègue donc l'appareil photo de George Mallory, Dan Simmons, avec toutes mes excuses pour ne pas l'avoir laissé dans les bonnes conditions de conservation que constituent les températures négatives à 8500 mètres d'altitude. J'avoue que je suis curieux de savoir ce que montreront les clichés, quoique pas assez pour les faire développer moi-même. Mallory et Irvine ont-ils vaincu le sommet? J'ai ma petite idée sur la question, comme j'ai un avis sur la tentative effectuée l'année suivante par le Diacre et Lady Bromley-Montfort. Je déteste confronter une solide conviction à la simple réalité. Mes excuses également pour la longueur infinie de ce manuscrit, ces dizaines de carnets gribouillés sur lesquels vous allez vous abîmer les yeux. Mais au cours de ces 6 ou 8 derniers mois, j'ai découvert qu'une sentence de mort, pour cause de cancer ou autre, permet de se concentrer efficacement sur les choses et les gens qui ont compté dans sa vie et d'oublier l'inutile. J'ai eu la chance de vivre de nombreuses expériences et de rencontrer beaucoup de gens. Certaines expériences ont été terriblement douloureuses sur le moment, puisqu'elles ont impliqué de perdre des êtres chers, mais aucune n'a été inutile. Les 3 hommes et la femme dont j'ai parlé dans ces pages ont énormément compté pour moi, comme les courageux Sherpas dont je n'ai pas oublié les noms jusqu'à ce jour. Et je préfère mettre un point final à cette lettre épilogue larmoyante qu'il me peine trop d'écrire. Votre ami, Jacob Jake Perry, le 28 avril 1992.